Bonjour, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Becky Chambers, qui est arrivée sur la scène de la science-fiction d'une manière fulgurante et très impressionnante, à la fois aux États-Unis et tout de suite après en France, grâce à deux romans qui ont été publiés en France par les éditions de La Talente. Je vais donner les titres anglais et les titres français parce que la traduction pourrait être un peu déconcertante pour l'auteur. Le premier s'appelle « The Long Way to a Small Angry Planet », en français « L'espace d'un an ». Et le second s'appelle « A Closed and Common Orbit », « Libration » en français. Alors, je vous propose de commencer par faire connaissance avec Becky Chambers et de l'interroger déjà sur sa rencontre avec la science-fiction. Pourquoi la science-fiction vous a intéressé? Comment vous l'avez découverte? À quel âge? Avec quels auteurs?
So science fiction has been part of my life ever since I can remember. I grew up in a family that was very involved in space science, and they were also huge nerds. So Star Trek and Star Wars were very much a part of my upbringing. And also just the real science going on in the background. When I was a teenager, a very smart teacher handed me Ursula K. Le Guin's Left Hand of Darkness and said, I think you'll like this. And she was right. And it really, you know, I'd already fallen in love with space and with the idea of exploring the galaxy at that point. But her work was really what introduced me to what science fiction could be. That it could be, you know, these fantastic adventures and space battles and all those things I love, but it could be so much more. It could be a way of exploring ourselves. So after I discovered her work, I just devoured my way through the library, and I've been in love ever since.
Donc, si je comprends bien, c'est par le space opéra que vous avez découvert la science-fiction. Est-ce que des auteurs vous ont marqué? Et est-ce que c'était... Je pense qu'on peut tout de suite poser la question. Est-ce que c'était tous des auteurs hommes, ce qu'on pourrait penser d'après ce que vous dites?
Actually, quite the opposite. I mean, there were some, but Ursula K. Le Guin was a big one. Also, Octavia Butler is another. She's just tremendous. Obviously, not in space opera, but Margaret Atwood was another writer who was a big influence on me. Beyond that, I mean, there were some male authors, but science fiction is actually quite rich, at least stateside, with female voices as well. They're growing more and more. And so it never, even though I was aware that, you know, it was a sort of traditionally male-dominated field, I never felt excluded from that. You know, I saw all these other women's voices, and I looked at them, and I said, well, I can do that too.
Et alors, vous avez pensé très tôt à écrire, mais si j'ai bien lu les interviews qu'on peut découvrir de vous, vous n'êtes pas parti tout de suite sur des études littéraires. Vous avez choisi plutôt le théâtre, une voie plutôt orientée vers la comédie ou le drame, enfin la mise en scène, plutôt que vers l'écriture. Pourquoi ce choix?
I love storytelling. And theater for me was a way to live inside of a story. I could, you know, it was one thing to read it on a page, but when I first started doing theater in my teens, it was, you know, I'm living it, I'm building this world, you know, I get to paint the sets, I get to inhabit these characters, and it was just so much fun. And eventually, you know, I did work in it professionally for a little while, but I realized that the stories I was interested in weren't the ones being told on stage. My friends who I worked alongside would go see plays in their downtime, and I would go home and read sci-fi and watch Star Trek. And eventually I decided to, you know, listen to that and to shift over to my oldest love, I guess. I still use a lot of the lessons I learned in theater in my work. I tend to write dialogue first, and then go through and flesh out the scene afterward. If I have a scene that has a lot of characters, I will draw out the blocking like you do with a scene in a play, when you're rehearsing, you know, you draw out what the set looks like and who's moving where. So I still use all these little tricks, even though I'm not working in theater anymore.
Et est-ce que le premier texte vraiment abouti et développé que vous avez écrit, est-ce que c'était tout de suite dans l'univers des Wayfarers? Est-ce que c'était tout de suite le premier roman qu'on a lu ou qu'on va lire très bientôt? Ou est-ce que vous avez commencé avec des nouvelles, avec des essais, avec d'autres choses?
The Long Way is my first book is the first book I wrote. So I got lucky there, honestly. I've been writing short stories and stuff my whole life. I just, you know, had to wait a while to get good. That's the thing about writing, is it takes a lot of practice. Short stories, though, I mean, in school you're taught to write short stories when you do creative writing class or whatever. And it took me a very long time to realize that I don't really like writing short stories very much. My problem with it was always that I would start to write them and my world building would get bigger and bigger and bigger. And then, I was assigned, write a 3-page story, and I'd come in with 30. So eventually I stopped trying to confine myself and just accepted the fact that I like to spread out. I like the space that a book gives me.
Alors, on va bientôt en venir à ce qu'il y a dans ces merveilleux romans, mais moi, il y a encore quelques petites choses que j'aimerais qu'on découvre ensemble. Si j'ai bien suivi, c'est difficile pour un jeune auteur de trouver tout de suite une maison d'édition qui vous accueille et qui vous ouvre les bras. Donc, si j'ai bien suivi, la première forme qu'il y a eu pour la mise en visibilité de votre roman, c'était de l'auto-édition. Est-ce que vous avez commencé par prendre en charge vous-même la production de votre roman? Comment ça s'est passé?
I'm not sure how organized it was. So I was working as a freelance writer at the time, which is a terrible way to make a living. And I was also working on this book. And I ran out of paying work and was broke. And I had this choice of either I can finish this, I can either use this time to finish this book, and I was so close, or I can, stop and go get a real job. And so as sort of a last-ditch effort, I started a Kickstarter campaign, for this very small campaign, and said, here's my idea for this book. I'm almost done with it. Please help me pay rent. And to my eternal surprise, people helped me out, and it was successful. And I always knew that traditional publishing would probably be a better fit for me because I'm not much of a marketing person. And in order to self-publish, you really do need to be able to go out there and promote your work. And that's not really my strong suit. But I wanted my backers, my Kickstarter backers, to have what they'd paid for. So I started by self-publishing and then was lucky enough to transition into traditional publishing later.
On n'est pas surpris que des lecteurs qui ont eu en main quelques chapitres aient tout de suite eu envie de soutenir le projet. Cette première publication, dans un cadre de crowdfunding, a tout de suite été repérée par des jurys. J'ai vu que vous étiez dans la shortlist de... Alors, j'ai vu citer le jury de 2015 Kitschies, the Clark Award, the British Fantasy Award, the Tiptree and Bailey's Women's Prize for Fiction. Et puis, bien évidemment, très vite, votre premier roman est nominé au Hugo, ce qui fait que sa visibilité devient tout de suite très importante. Ça a dû vous faire bizarre, non, quand même, que ça aille si vite.
Oh, it's still strange. It happened very, very fast, and I still sort of have sometimes have to pinch myself and say, how did this little book that I didn't think anybody would want to read, but apparently people do, and that's nice. But it's still very it's very strange to me, and it's very strange in my everyday life. I live in a small town, and I just write my stuff and. go about my day and my socks don't match most of the time. So being given these honors is just very humbling.
Alors après la découverte américaine, ça enchaîne assez rapidement sur d'autres pays, puisque en France, la Talente vous a très vite repéré, a confié la traduction de vos ouvrages à Marie Sergers. Merci. Donc oui, on vous les montre parce que vous les trouverez bien sûr dans la librairie, on en reparlera, mais j'ai pas assez de mains, mais voilà, ils ont de très belles couvertures. On aurait pu les projeter, mais bon, vous les trouverez sans difficulté. Donc, en France, la Talente vous a donné une visibilité tout de suite dans la foulée, ce qui fait que d'ailleurs on a le plaisir de vous avoir avec vous aujourd'hui. Je crois que c'est votre premier voyage en France. Est-ce que, de la même façon, vous êtes invité dans d'autres pays, en Europe, invité dans les festivals, dans les conventions Et comment ça se vit au quotidien, tout ça? Parce que vous parliez de votre petite ville, vous devez en sortir beaucoup plus qu'auparavant, j'imagine.
That's true. I did grow up in a big city, but I have moved into the hermit stage of my career very quickly. This is my first time in France, and it's wonderful. Next year, I'll be going to Spain and Hong Kong. My primary publisher is in the UK, so I'll be going there again. I was in tour there last year, so. Yeah, it's wonderful because I wrote these books sort of out of a love for travel and exploring, and I'm getting to do a lot of that, which is, it's really fantastic.
Bon, alors il est temps de se demander pourquoi ce parcours extraordinaire et de rentrer un peu dans l'univers qui est présenté dans ces romans, qui est un univers d'abord qui n'est pas une aventure individuelle, c'est une aventure d'un certain nombre de personnages qui ont tous des trajectoires de vie qui se croisent, qui se rencontrent dans un cadre qui est parfois celui d'une planète, parfois celui d'un vaisseau, dans un cadre résolument space opéra, mais une galerie de personnages complètement extraordinaires et qui sont portés par des choix, des souffrances, des situations individuelles qui sont toutes assez fascinantes à explorer. Je ne sais pas trop par lequel on peut commencer. Mais moi, il y a peut-être par Rosemary, le personnage central du premier roman, qui est la fille d'un escroc richissime, extrêmement connu sur sa planète, et c'est un héritage lourd à porter. Donc, elle s'embarque en dissimulant son identité et elle va vivre une quantité de choses. Mais pendant très longtemps, au moins pendant tout le début de son histoire, elle va porter cette culpabilité qui n'est pas tant celle des erreurs commises par son père que de devoir taire son identité à ses nouveaux amis, d'être obligée de cacher qui elle est, d'où elle vient, et donc d'être obligée au quotidien de mentir en permanence parce qu'elle aura tout un cheminement à faire pour accepter son passé. Ce fardeau de culpabilité, vous avez un certain nombre de personnages qui en sont chargés au départ et qui essaient de s'en débarrasser et qui arrivent à s'en débarrasser. Et on en est heureux pour eux et avec eux. Alors, pourquoi c'est si lourd au départ?
I think, my ultimate goal with these books is to leave the reader with a feeling of hope. I want these books to feel good. I want you to feel welcome in this world, and I want you to feel like the future is worth fighting for. The thing about writing about hope or optimism is if you start with everything's great and you end with everything's great, that is a very boring story. And I am not, even though I want things to be positive, I don't want to sugarcoat. You know, I don't want to say everything's great and we have all these little problems, but you know, I think where hope comes from is from a place of pain and from a place of guilt and from fear. And that's because without that, there is no hope, right? If you're just feeling fine, if everything's easy, you have no need for it. But in order to really properly write about hope, you have to write about challenge as well. And so that is why often with my characters, I give them these difficult, sometimes heavy things, because otherwise I don't think you can appreciate the journeys they take to overcome them.
Ben, des formes de culpabilité, vous en avez quand même inventé d'assez extraordinaires que moi, personnellement, je n'avais jamais rencontrées jusqu'à présent dans la littérature. Imaginez, par exemple, une intelligence artificielle qui se retrouve en situation d'habiter un corps biologique qui a été créé pour quelqu'un d'autre qu'elle, qui n'a pas pu l'habiter, et qui va, pendant toute une période... se demander si elle est légitime pour habiter ce corps qu'elle n'arrive pas à considérer comme sien et avec lequel elle a un rapport que vous exprimez littérairement d'une manière assez extraordinaire, parce qu'elle ne dit jamais « mon corps », elle ne dit même pas « le corps », d'ailleurs elle dit « le kit », et elle a un rapport complètement distancié, incroyablement distancié. Elle observe les réactions du corps dans lequel elle se trouve, mais en fait elle a ce profond sentiment d'illégitimité qui est très intéressant. Alors là encore, c'est de la culpabilité. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur cette espèce de péché initial? Est-ce qu'on peut vous demander s'il y a des racines chrétiennes, par exemple, à la culpabilité?
You know, I'd never really thought of it that way. I myself am agnostic, but I was raised Catholic, so I do have quite a bit of latent guilt, probably. I think really what I was drawing from more is just feelings of, and perhaps it is rooted in the way I was brought up, but not fitting with the role you were told you were supposed to have. I think that's very much part of both Rosemary and Sidra, the character you're describing now. Both of them were told they were supposed to be one thing, and it doesn't fit them, and it's uncomfortable for them, and the feeling really is one of guilt. And I think for any of us who have struggled with identity or who have felt that you don't fit into what, you know, your parents or society or what have you have told you should be, it's not, you don't feel defiance at first. You feel like you've done something wrong. You know, you feel like you're to blame, that you're at fault, that you're the one who needs to just suck it up and be what everybody else wants you to be. And when you can't, because that's not who you are, you often feel ashamed of it or you struggle with it. And so I think, at least consciously, that was what more where I was coming from with characters along those lines, is this feeling of having to overcome what everybody tells you you're supposed to be and instead discovering who you really are.
Mais quelquefois, le rôle que la société impose est absolument terrible et insupportable, puisque on a quand même une enfant humaine qui est élevée par des intelligences artificielles pour faire un travail d'esclave sans aucune connaissance du monde extérieur, pour trier des matériaux, les recycler, et qui est élevée, elle est élevée comme un robot. On ne lui a pas inculqué la notion d'humanité. Elle n'imagine même pas ce que ça peut être d'être un être humain. Quand elle a l'occasion de le découvrir, il faut qu'elle invente tout. Mais on est obligé d'avoir de l'empathie parce que l'avenir qui lui était proposé était insupportable, inhumain au sens propre. C'est si terrible ce que la société vous impose. Je parle de culpabilité en ce moment. En fait, le grand thème, c'est la rédemption. Hein, c'est comment on en sort de cet état. Mais vous les avez plongés profond dans la souffrance au départ.
I do. I'm horrible. I know. but again, that's, I mean, the big thing with my books is that I don't write about heroes. I'm not writing about chosen ones or you know, the good captain. I want these people to feel very relatable to ordinary people. I want them to feel like us, even though they're going through these extraordinary things. Hopefully none of you have been slaves in recycling factories. None of you, I think, are artificial intelligences. So, you know, they are these extraordinary things, but ultimately their journeys are very personal. you know, they're not going about toppling governments or, you know, keeping planets from blowing up. They're just trying to be comfortable within themselves and within their own community. And so in that, even though I do put them in you know, sort of fantastical situations, I want their pain to feel, or their struggles to feel relatable. You know, it's, a lot of us can relate to being told this is your role, even though it's not what you want to be. A lot of us can relate to having a body that doesn't feel right, that doesn't feel like it's yours, or that it isn't the way you want it to be. So even though, you know, it's very science fictional, ultimately I think what they're going through is very human.
Alors, ce qui est très émouvant à la lecture et ce qui est réjouissant aussi dans cette lecture, c'est que vos protagonistes ont beaucoup d'empathie les uns pour les autres. Et chacun d'entre eux devine, perçoit les difficultés que traverse son ami en face, mais ne sait pas comment l'aider. Et il me semble qu'il y a un processus qui se répète assez fréquemment. Il faut que la personne qui est en souffrance soit capable de mettre des mots et de faire face à sa souffrance et arrive à l'exprimer pour que l'autre puisse aider. Et on a des... C'est du vivre ensemble hein, de partout dans cette histoire, mais il faut d'abord qu'il y ait eu un cheminement personnel qui permette à celui qui est en souffrance de dire comment, pourquoi et de poser des mots. Vous reconnaissez dans cette démarche?
That's interesting. Yes, I think so. I'm very big on sharing, I guess. I take a lot of strength from my community of friends and, you know, from my family. And, you know, there's the face you put on to other people, and then there's who you really are. And I think the more honest you are about who this is, the closer you become with other people. And together you can overcome anything. So yes, I would say that's my approach, or at least the one I try to live by, is that, you know, I am honest about my feelings and that I listen when other people tell me, and or at least I try to. I may not always be great at it, but I try. But I think that's, you know, we are a social species, and the only way we can live together and do great things is by both sharing and listening. And so those are qualities that I give most of my characters.
Et c'est peut-être pour ça que vos personnages sont très éloignés des héros dont nous avons l'habitude et dont nous avons l'habitude en science-fiction. Il me semble que très souvent, surtout dans un cadre space opéra, les héros sont des personnalités très fortes et dont la force, d'abord, s'exercera par des formes de domination, de contrainte sur l'autre, de pouvoir, et d'autre part, sont des individus extrêmement stables. Le héros est quelqu'un qui ne changera pas d'objectif, qui sait exactement ce qu'il veut faire, qui ira jusqu'au bout de son projet et qui n'en déviera pas. Et vos personnages, à mon avis, sont beaucoup plus riches et beaucoup plus intéressants parce que ils sont capables de changer de point de vue, de changer de projet, et ça commence par changer de regard sur eux-mêmes. Et ça, c'est totalement fascinant. Il y a un autre de vos personnages dont j'aimerais qu'on parle tout à l'heure. Mais voilà, c'est votre démarche. Il faut accepter de renoncer, de changer d'avis sur ce qu'on veut faire pour grandir.
Yes, I think you have to be able to renounce your opinions in order to change. I think so many of us come into, I mean, not so many of us, all of us are products of the culture we grew up in and the biases we've absorbed from other people. And it really holds us back. You know, whether you're talking about conflict between countries or between cities or just neighbors, any groups that share a space. And in order to come together, you have to be willing to change. You have to be willing to evolve, and you have to be willing to look at the things that you think are true and question them, even though it may be very uncomfortable, even though you may come to the conclusion that you were right all along. I think anytime you stop questioning, you stop growing. So I do think that's very important.
Et du coup, le lecteur le fait avec les personnages, parce que moi, je suis fascinée par les navigateurs des vaisseaux spatiaux, qui sont des êtres doubles. Ce sont des paires d'individus dont on parle au pluriel, qui s'expriment. C'est une dualité. Et au départ, voilà, on l'admet, comme le fait Rosemary quand elle découvre le vaisseau. Voilà, c'est une paire, c'est un être pluriel. Ils font tout ensemble, ils pensent ensemble, ils sont inséparables. On l'accepte avec elle. Jusqu'au jour, beaucoup plus tard, où on découvre d'abord que ce n'est pas un état naturel, qu'il a été provoqué par un virus, que ce virus crée des dommages dans les organismes où il s'est installé, et que se pose à ce moment-là une question complètement métaphysique qui est sur la thématique de l'identité. J'ai pensé à Greg Egan en vous lisant à ce moment-là, parce que c'est sa grande thématique aussi, et il n'y a pas de thématique plus fascinante que celle-là, je pense, en science-fiction. À un moment donné, je peux le dire, je spoil un peu, la paire d'individus doit se poser la question, est-ce qu'on envisage de renoncer à notre dualité et donc à notre personnalité ? Nous aurons une chance de survie si nous devenons deux individus distincts, mais nous ne sommes plus ce que nous sommes actuellement. Et c'est une mort psychologique en un sens. Alors après, je ne vous dirai pas, Becky vous dira si elle en a envie, s'ils le font ou pas, mais la question est extrêmement troublante.
I intended that as a difficult problem, and one I don't have a good answer to. I don't know how I feel about how that ends up. I won't say exactly how it works out, but I still don't know whether or not I think what happened is right or wrong, and I don't think there should be a right or wrong with that, because it is ultimately a death and a creation of something new. And so I think you can simultaneously have grief for one of the things and think that it's wrong that it happened, and be glad that the other one happened. And I wanted to challenge the reader with that. I wanted them to put them in a difficult spot, as difficult as the rest of the crew is feeling in that moment, and really ask questions about not just individuality, but personal autonomy and your autonomy over your body, and what you'll allow others to do. It's not a great answer, because there's not a great answer to that problem in the book itself.
Mais c'est ce que j'avais envie que vous partagiez avec nous. Est-ce qu'il y avait une bonne réponse pour vous ou pas? Et le problème est effectivement tellement complexe que chaque lecteur, je pense, voilà des points d'entrée qui permettent de s'approprier l'histoire et que ça devienne vraiment quelque chose de vivant pour le lecteur. On en fera chacun une lecture différente, sans doute. Alors, il y a autre chose aussi qu'il est important de souligner dans votre écriture et qui, moi, m'a profondément réjouie, c'est la richesse de tout cet univers sensoriel. D'abord, je pense que vous devez être une gourmande, parce qu'il y a un rapport à la nourriture, qu'elle soit familière, rassurante, ou qu'elle soit exotique, surprenante, épicée, poivrée, qu'il s'agisse de quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé goûter, ou au contraire de quelque chose de rassurant, d'apaisant. Vous avez un spectre gustatif, odorant, extraordinaire. Alors vous êtes une gourmande.
Maybe a little. I do love food. So with that, I'm very inspired by real-world human spaceflight. And if you go listen to an astronaut speak, there are three questions you will always, always hear, no matter how old the audience is. First, they want to know how you go to the bathroom in space. They want to know how you sleep. And they want to know what you eat. And these are questions. These are fundamental questions. These are the questions you have to answer for yourself whenever you travel, whenever you go anywhere. Where am I, where can I get a meal? Where am I going to stay? Those are the first things you have to sort out before you travel.
J'allais le dire.
And so I wanted this feature to feel like a place that anybody could live in. You know, because when I would watch space opera, read space opera as a kid, I never related to the hero. I always was interested in the people in the background who just were at home there. So I wanted it to feel like home. So whenever we enter a new space, I answer those questions right off the bat. This is where they live. This is what their home is like. And here's what you're eating. Because I think a future that just has protein cubes would be really, really boring. And food is also just such a comfort. You know, and it's how we socialize, and it's how we show our friends that we care. And I use it a lot as a shorthand for building relationships, and also just because, you know, food is great.
Oui, oui, mais c'est extrêmement expressif. Quand on découvre le vaisseau, c'est pas un vaisseau froid, militaire, sobre. Au contraire. C'est par le choix des rideaux, des coussins, par tout cet aspect un peu hétéroclite, coloré, vivant, que passe toute la chaleur humaine de l'échange. Et moi, il y a des tas de choses qui m'ont parlé. Par exemple, la première rencontre que l'on fait avec Sissix, la créature à plumes chamarrées, exubérante, qu'on va découvrir petit à petit. Une des premières confidences qu'elle fait, c'est à propos de la grille métallique qui a été recouverte d'un tapis, où elle explique « Ah oui, ils ont mis un tapis parce que j'arrêtais pas de me prendre les griffes dedans. » Et vous n'imaginez pas à quel point ça fait mal de se prendre une griffe dans la grille métallique. Et alors, on lit ça, on n'a pas de griffe, mais alors on a mal avec elle. On le sent tout de suite. Il y a du sensoriel partout et sur tous les registres qu'on peut éprouver. Vous avez eu mal aux griffes avec elle, on le sent, en coinçant un talon, c'est pire encore.
Yeah, I really like to think about how shared environments would feel to different species. Sissix is often uncomfortable on the ship. She also can't regulate her body temperature. So there's often fights between her and one crew member in particular about how hot she makes the ship. It's one of those things that just humans have to negotiate with roommates, you know, the things that make you comfortable in your home. But I really, really like exploring how physical differences would affect the way you would an alien would feel about a place designed for humans. I think a lot of times in space opera, in TV in particular, humans and aliens occupy the same space, and there may be a little bit of disconnect, but for the most part, they can live side by side just fine. And I don't know if anybody here has had weird pets or anything that you had to, you know, put in a tank and buy special equipment for. You know that that's not true. So, yeah, that's I. Although I don't want to make my characters too uncomfortable in their home, I think it's fun to play with the things that we would find very comfortable that they would not.
Mais alors, du coup, vous êtes inventive. Parce que, par exemple, celle dont nous parlions qui se retrouve à habiter un corps qui est une intelligence artificielle qui a eu une première vie en tant qu'IA dans un vaisseau. Et elle est complètement déconcertée par le champ de vision du corps humain qu'elle habite. Et pour son confort, ses amis ont l'idée de lui installer des sortes de perchoirs qui lui permettent de regarder les pièces depuis un angle en altitude, qui lui redonne une impression de familiarité. C'est rigolo d'avoir des idées pareilles. C'est extrêmement amusant à lire. Il y a beaucoup d'humour aussi dans vos textes.
Well, thank you. I want to keep those moments. Even though I do make things come comfortable, I do want to make it, you know, a bit light as well, because I do deal with heavy topics, so I don't want it to be too heavy. I want it to be something that's fun to read. So, you know, because those moments of cultural disconnect can be very funny. Anytime you meet somebody from somewhere else, I mean, I've had that experience a lot of times over the past few days, just encountering things that maybe we weren't expecting the same reaction on, but we find it funny in the end. I try to make it that it's not a struggle all the way through. I want you to have fun with it as well.
on le fait, on s'amuse beaucoup. Et on est très touchés en même temps. Enfin, j'étais très touchée par, en découvrant en même temps que Rosemary, que ce membre du vaisseau dont nous parlions, qui se prenait les griffes dans les tapis de sol, faisait partie d'une culture beaucoup plus tactile, affectueuse, où la proximité physique, les câlins, on se prend dans les bras, dans sa famille, dans sa culture, et qu'en fait, bien qu'elle ne l'ait jamais dit, on en vient à la question de « il faut mettre des mots sur sa souffrance pour qu'elle puisse être résolue », elle n'en parle pas de sa souffrance. Et du coup, il y a un cheminement des personnages les uns vers les autres pour que il n'y en ait pas un qui soit privé complètement de toute cette affection tactile. Eh bien, en vous lisant, je me disais que j'ai rarement vu ça sous la plume d'un auteur masculin. Je ne sais pas si on est plus tactile, nous, les femmes, mais ce qui est sûr, c'est que vous l'exprimez d'une manière qui est très, très touchante. Est-ce qu'on se touche de la même façon dans toutes les cultures? Est-ce que vous pensez que la manière dont on gère le contact physique avec des personnes plus ou moins proches en France, est-ce que ça se passe comme aux États-Unis? Est-ce que vous sentez comme ça des différences d'un lieu à l'autre?
So when I was preparing to come here, my translator has been very gracious in helping me, explaining to me some cultural norms. And in the US, we hug a lot, which is, I have learned a word that you don't have. But we hug to say hello, we hug because something's funny, we hug if somebody's having a hard time. And I...
Les câlins.
And I asked her, I was like, is it true that you don't hug to say hello? And she said, we don't have a word for it. And that just, to me, blew my mind, because we don't hug, but we hug, and you don't hug, but you do kiss, and we don't kiss, and we do, but not like you do to say hello and goodbye. Everywhere I go, there are differences in how people touch. I'm married to an Icelander, and it's different there too. They'll do one kiss on the cheek, but they're very cuddly, to stay warm, probably. Everywhere has different rules about personal space, about what kind of touching is okay, about what kind of touching is normal, and also just about your body. Are we comfortable with nudity? Are we comfortable with, touching other people on public transit or not, you know? And it's interesting to me that there doesn't seem to be one set of rules on this. You know, even within Western culture, it's very different.
Et ce qui est très intéressant avec vos deux premiers romans, d'abord, pour ceux qui ne les auraient pas découverts, je crois qu'on peut dire qu'ils peuvent être... Il n'est pas absolument nécessaire de commencer par le premier. Si, pour une raison ou une autre, vous aviez envie de lire directement Libration, ça marche aussi très bien. C'est un univers fascinant qui se met en place. Et là où vous nous avez pris par surprise, c'est qu'on ne retrouve pas... Enfin, les personnages essentiels du deuxième roman apparaissaient brièvement, c'était des personnages assez secondaires dans le premier. Donc je crois que vous avez l'intention de continuer à développer cet univers, de continuer. Est-ce que vous allez le faire sur le même principe, en choisissant d'autres personnages, d'autres trajectoires de vie, d'autres rencontres à mettre au premier plan?
I just finished my third book. I sent it in 15 minutes before I head to the airport to come here. And it is set in the same setting, but like the second book, it branches off in a different direction. So I do plan to stay with this setting for a while, at least a couple more books. And each one will be its own thing, because there is a lot of this galaxy to explore. And I feel like if you just stay with one crew, you're not getting the full story. There's so many different cultures and there's so many different places that I think it makes sense to go hang out with different people each time.
Et donc, c'est bien votre format, le roman? Vous disiez la nouvelle, finalement, c'était une frustration. Non, parce que en vous lisant, on se dit, il y a quand même des scènes qui sont tellement parlantes que vous pourriez avoir envie de le développer, je ne sais pas, comme comme Cordwain Smith a développé son propre univers, qui était aussi très vaste. Et, c'est une démarche qui pourrait vous tenter éventuellement, comme Cordwain Smith dans Les Seigneurs de l'instrumentalité, par exemple.
So developing one scene just to talk about one specific character.
Un ensemble de scènes dans un même univers, mais sous forme de moments, de rencontres, d'événements clés, où vous êtes plutôt définitivement à l'aise dans le format roman.
I have sometimes thought about doing some shorter things with individual characters, just to flesh out some of those ideas that get touched on, but that I don't have enough time with. In general, I do prefer a big, chunky book, because it gives me more room. But now that I've written a few of them and have laid the groundwork for these, I feel like I'm in a better place to play with short stories, which, I, as mentioned, I'm not as comfortable with. So now that the world building is done and I don't have to cram it into a smaller story, I feel like I could do a bit of that.
Et puisque vous êtes très en prise avec nos nouveaux modes de collaboration, d'écriture, que vous avez commencé avec du crowdfunding, et qu'on est dans un contexte actuellement où les auteurs aiment bien collaborer, et qu'en plus votre thématique c'est la collaboration, est-ce que vous avez déjà envisagé soit de proposer votre univers à d'autres auteurs pour qu'ils puissent jouer dedans ? On pourrait avoir envie de jouer dans vos univers, soit vous-même de faire une petite incursion dans l'univers de quelqu'un d'autre et dans son cadre. Travailler à plusieurs, ça vous a effleuré comme idée?
I haven't thought about that too much. I admit, I love collaborating on books with, you know, the folks at my publishing houses, you know, the editors and translators you know, everybody. There are a lot of people that go into a book. I know it's my name on the cover, but there's a lot of people who work on it. That's very fun. I do admit that when I'm working on a story, I really like to be alone. So I might get a little spiky if I had to work with someone else. It's actually one of the things that I really love about being able to write novels, as opposed to when I was working in theater, is nobody's arguing about what the story should be. I just get to write it all down by myself. But I mean, if I found the right person and we wanted to either, you know, I wanted to play in their sandbox for a while or the other way around, I would definitely be open to it.
Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir certains ou certaines parties de vos romans jouer au théâtre? Est-ce qu'il y a des projets d'adaptation audiovisuelle, cinéma? Il me semble que ça s'y prêterait bien. Ça vous intéresserait? Ou est-ce que vous êtes tellement possessif par rapport à votre projet que ce serait une souffrance?
Oh no, I think it'd be wonderful. Even though I like to write the actual book on my own, I think that, all art stands on the shoulders of other art, right? And I think that there's a lot of beauty in seeing a story, you know, sort of handing off a story to someone else and seeing it grow into something else. Again, that's a thing from theater. You see classical theater, you see this a lot, where there's the same story told over and over and over again by different playwrights, and they're all very different. And I really love that. I love the evolution of stories. So I would love to see an adaptation of this. I sometimes readers send me fan art, which I love to see, because sometimes it perfectly matches what's in my head, and sometimes it doesn't. And I love it when it doesn't, because that means that it evolved for them, it changed, it grew. So in that... I think that art, creating more art, is ultimately a good thing. I mean, I would hope it would be a good adaptation, but I would be very excited to see that.
On va bientôt arriver à la fin du temps, donc il y a peut-être quelques questions que vous aimeriez poser à Becky Chambers, et que je vois tout de suite qu'il y en a.
Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur votre rythme d'écrivain, votre quotidien de créatrice?
Absolutely. So breakfast is the most important part. Because if, well, it's true, because if you, we have this myth as writers that you're supposed to exist on like coffee and alcohol and pain. And that's a, you're just miserable. It's a terrible way to write. So always start your day with good fuel. I have a small office I rent with a friend outside of my home, because if I sit at home in my pajamas, I'm just lazy. It's very good for me to get out of the house to write. I always do my writing first thing in the morning. I'm not a morning person, but just morning for me. Because if I get distracted with other things, then I don't write so well. So I don't open up my email. I don't look at the internet or anything. I eat breakfast. I go to my office. And I just write until I can't anymore. And that might be an hour. That might be 3 hours. On a really bad day, it might be less. But mostly I sit down and I pluck away at it. I do outline my books, but not very strictly. It's actually terrible when I send things into my publisher, because it's all, when I send in a synopsis, it always says, you know, it will end somehow. And they know that things will change. I don't write in order. I jump around a lot. So, you know, I may write something at the beginning one day and the next write something at the end, or 1 week I might spend with an entire character if I'm really feeling them right then. But I'm very all over the place when I write, and I like it that way.
Est-ce qu'il y a une autre question pour Becky? Parce que sinon, je crois qu'on peut continuer aussi à lui faire dire des choses sur ça.
Hello. Thanks a lot for sharing your experience. Very interesting. I was wondering, because so far on this festival, what I've heard a lot is that a lot of authors are explaining like what kind of books have influenced their writings, or what kind of TV shows, and they seem to be just knowing everything that's going on in the literary world and on TV and in the movies. And I was wondering how, as a writer, you find the right balance between getting sort of like documentations from what is existing out there, which is massive, and at the same time finding the time to write your own story.
That is a great question. I don't ever know everything that's going on. I think part of it is you get into books and popular culture because you love books and popular culture. Nobody starts doing this as a job if you didn't start from a place of being a fan. So in that, you're already kind of plugged into it a bit. I do find that separation is very important when I'm working on a book, especially when I'm coming toward the end of a draft. I don't read, on a daily basis, I don't read as much science fiction as I used to when I first started. Instead, I tend to gravitate toward television and video games and things that are outside of my medium, but still let me imagine things. I do still read, obviously, but it's just a matter of finding out what your friends are into, finding out what your friends are working on, but making sure that it doesn't distract you. For example, like if I know that a game I really like or a book I really like is about to come out and I'm working on another project, I may wait with it until I'm done, which can be really hard. It's really hard to do that. But in order to, as you said, have that sort of separation, it's kind of crucial, because if you're thinking about somebody else's story too much, you're not thinking about your own. But at the same time, if all you're thinking about is your own work, then you're just in an echo chamber. You're not getting new ideas. You're never really taking a break. So it's a really tricky balance, and it varies for some people. I know some other authors who read every day, constantly. If I've spent the whole day writing, the last thing I want to do is read, but I'll do it on the weekend. So it's a lot of personal preference in there as well.
Thank you.
On vous a pas interrogé sur est-ce que vous faites un plan, vous avez un canevas extrêmement précis avant de commencer à écrire, ou est-ce que l'histoire se bâtit au fil de la plume?
It's a little bit of both. I will have a general plan for what I'm going to do, and the further I go along, the more I fine-tune and say, okay, here's my roadmap, here's where I'm going to go. But usually at first I have no idea what I'm doing. I have sort of a fuzzy feeling of what I want it to be. It's sort of like sculpting, I guess, in a way where you start with a big shapeless thing and you chip away at it and you chip away at it. And eventually you're like, oh, okay, here's where the face is going to be. Here's where this is going to be. But at first it's just sort of, you know, kicking at the rock and seeing what sticks.
Bonjour. Hier, lors d'une conférence, la modératrice disait que, en France, autour d'elle, elle avait remarqué que les personnes qui avaient adoré votre livre étaient plutôt des femmes, et que, au contraire, les hommes autour d'elle l'avaient pas apprécié. Que c'était quelque chose de typiquement français parce que, aux États-Unis et en Angleterre, c'était pas le cas. Alors, moi, je me suis sentie un petit peu honteuse. Je suis allée voir sur Internet ce matin. Et les critiques, et dans la mesure où on peut deviner si c'est un homme ou une femme qui a écrit, et en fait c'était pas tellement vrai, alors j'étais un petit peu rassurée. Par contre j'étais étonnée par des critiques de personnes qui n'avaient pas apprécié le livre en disant qu'il n'y avait pas d'intrigue, ce qui à mon avis est complètement faux, mais des tas de remarques qui laissaient entendre qu'à partir du moment où c'était construit sur des personnages qui fonctionnaient beaucoup sur l'empathie et pas sur la domination et des luttes de pouvoir, ben c'était pas de la science-fiction, quoi. Une espèce de défense de la pureté du héros, des choses comme ça. Alors, tout en disant, attention, hein, c'est moi ce que je pense, hein, peut-être que vous allez aimer le livre, mais il me semble que... Et ça m'a dérangée de lire ces choses-là et je voudrais savoir si... Vous, de votre côté, aux États-Unis, il y a eu des réactions un petit peu comme ça, notamment, par exemple, si vous avez été nommé dans la liste pour les prix Hugo. Est-ce que vous avez entendu des choses comme ça? Et puis, qu'est-ce que vous en pensez?
I mean, there's always criticism. There's always going to be someone who hates your book. But no, that comment you're referring to on the panel yesterday was news to me, because that's not something I've typically encountered. I receive a lot of letters and things from readers, and you know, I have people of all ages and genders who connected with the book, and people who don't, you know, and that's okay. I didn't quite have the same feeling, and I don't know if it's a cultural thing or if it was just specific to that particular community. But in general, I think, I mean, it's true. I do not have the strongest plot in the world, and I will be the first one to tell you that, because it is character-based. It is about these people. You know, if you're looking for a gripping, exploding planet sort of plot, you won't find it here. And if that's what you really love about science fiction, awesome. Because that's what works for you. And my book probably won't work for you, and that's fine. But to say that science fiction can only be one thing, I think is very limiting. It's very, it's boring, and that's not what science fiction's about. Science fiction can be anything. And so I will keep doing my bit of anything, and I you know, if folks don't like it, that's cool. But some people clearly do. So I think that in and of itself proves that science fiction is a lot broader than some people make it out to be.
Il est possible aussi que ce soit parce qu'on vous a collé le terme de space opera que la question se pose et que la définition qu'on a de la science-fiction soit plus vaste et plus tolérante. J'ai vu quelquefois des définitions du space opera en tant que genre qui affirmait que c'était basé sur un esprit de conquête, de domination et des enjeux de pouvoir. Si ça fait partie de l'identité du genre, on peut peut-être mieux comprendre que certains vous trouvent un peu borderline par rapport à cette définition-là. Mais dans la science-fiction, personne ne contestera que vous avez une place merveilleuse. Je crois qu'on nous a demandé... en principe, de tenir un timing assez précis. S'il y a une toute dernière question, on peut encore la prendre rapidement. Oui, il y en a une.
Yeah. Hi. Do you ever force yourself into writing?
Do I ever force myself?
Yeah. Yep. Or do you have a weekly routine that you tend to break every now and then?
I break it a little more often than I should. Yes, I sometimes do have to force it. There are days where I really, really don't want to, and where I can't think of anything good, and where every word I type is just misery. And the thing of it is, it's my job. And so, and some days it feels like a job. Some days it is work. It sucks because, ideally I want to be telling stories because I love the story, and I do love my stories. And most days it's like that, where I'm writing for a place of love. But there are days where I have to remind myself that I have to pay the bills, and that, if I miss a deadline, everyone's going to hate me and my parents will disown me, and, I'll be a failure. So, I think fear of failing is something that definitely scares me into working on the days that I don't want to. But I do also cut myself some slack, because I'm not a machine, right? Like, I can't always write 2,000 good words a day. Some days I can't. I'm tired, I'm distracted, I've got other things going on. And so as long as I mostly have good days, it's okay if I break my routine once in a while and go for a hike or stay home and watch TV, or, maybe I'll write just 500 words that day, and maybe they're terrible, but at least I did something, So I think a routine is good, but you also don't want to chain yourself to it. You want to give yourself room to be human.
En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, on vous adore et qu'on a adoré passer cette heure-là avec vous et vous écouter nous parler de votre vie, de vos projets, de votre univers. Et donc, vous pouvez prolonger le plaisir, bien évidemment, à la librairie. Et un grand merci à Becky Chambers et pour le plaisir qu'elle nous offre.